Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You fellow, but your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shrew. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know what's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do what you like. You much to do about nothing. All you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry IV. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus Andronicus was bound to fail. So will you if a car I get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Cymbeline, she was on a day, Bridget Jones. Love's labors lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner.
Bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Alors aujourd'hui dans ce Canu Info, on va commencer par parler de la grève sur Radio France. Ensuite, on parlera du budget com de la mairie de Villeurbanne. Une personne brûlée au taser et une intervention musclée à Saint-Fond. Ensuite, en Afrique du Sud, des ouvriers agricoles sont en grève. L'autonomie du Kurdistan syrien. On va parler de Pinar Selek qui est toujours en procès, cette militante turque, et de l'homophobie à Hollywood. Ensuite, ça sera le Faut que ça sache, puis la chronique numérique et enfin l'agenda. Alors, c'est le troisième jour de grève à France Inter. Une grève à la radio, c'est toujours déstabilisant pour nos oreilles. J'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle, chers auditeurs. Au lieu de nos bulletins d'infos ou de la météo habituelle ou de notre émission coutumière, on n'entend que de la musique. Et à partir de là, dur de savoir ce qui se passe. Dans ce qui se passe pour pourquoi les personnes sont en grève ou ce qui se passe un peu dans le monde si on a beaucoup l'habitude d'écouter la radio et surtout quand des radios comme France Info ne relayent pas massivement le pourquoi du comment de cette grève. Alors quelques précisions. C'est une grève des techniciens de France Inter qui dure depuis lundi. Et le motif de ce mouvement social est la suppression de 4 postes de techniciens d'antenne et de production sur 34, selon les organisations syndicales. C'est la réorganisation du travail des techniciens qui est en cause suite aux modifications de la grille de France Inter à la rentrée. Donc petit rappel que 4 postes avaient été déjà supprimés en 2011. Le mouvement tient bon là jusqu'à présent. La grève a été reconduite aujourd'hui pour demain et les journalistes ont été appelés à rejoindre le mouvement. Alors je vais lire un petit extrait d'un communiqué des syndicats CFDT, CFTC, CGT, CNJ et Sud. Voilà déjà 3 jours que la grève entamée lundi 7 janvier s'entend s'entend sur France Inter et sur d'autres antennes de Radio France. Cette grève contre la suppression de 4 techniciens d'antenne à France Inter est massivement suivie par les techniciens touchés en premier lieu. Mais elle concerne l'ensemble des salariés de la chaîne, car c'est la qualité des productions et de l'antenne qui est en jeu. Les organisations syndicales signataires de ce texte appellent les journalistes de France Inter à entrer massivement dans la grève ce jeudi. Et dans un autre communiqué, donc la SDJ, la Société des journalistes de Radio France, a quant à elle, je cite, « demandé des éclaircissements et des garanties afin que les journalistes puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions ». Elle a dit aussi regretter vivement cette situation de blocage et le manque de dialogue, sachant que le conflit entre techniciens et direction couve depuis juillet. Et ben voilà, on peut voir à partir de ces deux différents communiqués que la guerre des classes, c'est toujours et encore existant, que les journalistes se sentent un peu pris en otage par cette grève pendant que les techniciennes mènent la bataille contre la direction. Ça semble un peu manquer de corporatisme dans leur branche. Sinon, ils pourraient un peu faire comme à Canu, parce que les techniciennes et les journalistes, ce sont les mêmes personnes. Donc, c'est plutôt gagnant dans ce genre de conflit. Donc, et puis, pour finir, les grévistes ont aujourd'hui mis en place une caisse de grève, donc ce qui est bon signe pour dire que ben, peut-être ce mouvement social il va un peu durer. Et caisse de grève pour soutenir ceux et celles qui auraient plus de mal à assumer les pertes de salaire. Bon, allez, tenez bon, on a d'autres sources d'infos, mais choisissez quand même de la meilleure musique tant qu'à faire.
Ouais, et puis essayez aussi d'arrêter de parler sur France Info, ça fera du bien à tout le monde. Alors, il y a une carte des différents budgets com de toutes les mairies à travers la France qui est sortie, que vous pouvez retrouver, je crois, sur Rue 89 Lyon, il me semble. Et du coup, ce qui nous intéresse à un niveau un peu local, eh ben, c'est que Villeurbanne est la première des villes du Rhône à apparaître dans le classement de cette liste nationale, du coup, en 13e position sur 32 grandes villes, avec un budget de 143 600 euros par an et... Alors, j'ai pas compris comment ça s'ajoutait exactement après, combien d'élus il y avait exactement. Et 240 euros de frais de mission par élu de la mairie. Du coup, quand même, par exemple, Lyon est 19e sur cette liste. Alors, ça semble un peu aberrant quand même de la part de Villeurbanne, avec 98 000 euros et 670 euros de frais de mission par élu, ce qui est quand même déjà énorme. Et donc, du coup, Villeurbanne, eh bien, voilà. Alors, en quoi ça consiste tout ça? Visiblement, c'est du coup la promotion de la politique municipale, les fêtes, les cérémonies, et les frais de mission des élus, bah, c'est leurs déplacements, les dépenses exceptionnelles, etc., etc. Alors, j'ai regardé un petit peu... pour faire un comparatif dans le budget 2011, c'est le dernier que j'ai trouvé, de la mairie de Villeurbanne, et du coup qui avait lancé un projet, par exemple un programme d'aide au logement autonome pour les 18-25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui a l'air cool comme ça, sauf que, par exemple, bah, le budget de est alloué à cette aide, et il était de moins de 100 000 euros. Du coup, c'est très moderne tout ça, Villeurbanne est bien rentré dans l'ère où communication est plus importante que l'action et où il est moins important de faire, mais surtout, il faut dire ce qu'on fait.
Et ben voilà, comme on nous l'a bien trop souvent rabâché, le taser est une arme non létale. Donc non létale, ça veut dire qu'il ne tue pas. Alors le taser, on le rappelle, c'est ce pistolet à impulsion électrique qui est produit par la société américaine Taser. Société, on le rappelle aussi, qui est très très à cheval sur son image de main, car il poursuit quasi systématiquement tout ce qui peut nuire à l'image de son fameux pistolet. Elle avait par exemple porté plainte contre le Taser Festival à Lyon, qui avait eu lieu il y a quelques années de ça, pour l'usage abusif d'une marque déposée, en gros. Aujourd'hui, le Taser équipe la plupart des équipages de flics, et là on va parler de ce qui s'est passé dans l'Eure, en Normandie, où les douanes arrêtent une personne pour un contrôle routier, la personne décide de ne pas se laisser faire et résiste à son contrôle, là, à partir de là, des coups partent, la personne est aspergée de lacrymo, puis un douanier sort son taser et lui tire dessus, sauf que voilà, la lacrymo contient des gaz inflammables et que le taser fait des étincelles qui ont enflammé le visage et une partie du torse de cette personne. Il sera conduit à l'hôpital et réussira, à partir de là, à se faire la belle. Donc ça, c'est sur le côté sympathique de cette histoire. Et comme toujours dans ce genre de récit, les flics déclarent que l'individu était violent et la préfecture confirme que les forces de l'ordre ont fait un usage de la force de manière proportionnée. Voilà, une fois de plus, l'utilisation du taser aura mutilé une personne et c'est valable pour le taser, mais aussi bien pour le flashball et tout ce qui éclipse les forces de l'ordre. Et là, on va faire un tour du côté de Saint-Fons où une intervention de flics musclés a eu lieu. Ça fait suite à une voiture de flics qui s'est fait caillasser à proximité du camp de Saint-Fons. C'est vrai qu'à voir comment les flics se promènent et ont un peu l'habitude de rentrer dans le camp en voiture alors que des personnes sont quand même à proximité et y vivent. On peut comprendre éventuellement que certaines personnes en avaient relativement marre et avait un peu envie de se venger, même si quand même là il y avait quand même rien qui permettait aux flics de déterminer que les cailloux venaient des personnes qui venaient du camp, à part que ça s'est passé à proximité, mais il y avait rien pour le déterminer. Dans tous les cas, ça s'est passé à côté, donc ça justifiait une grosse intervention de leur part. Les flics quelques heures plus tard arrivent avec une vingtaine de flics, du coup débarquent sur le camp équipés de chiens afin de retrouver les auteurs de ces agissements, ou comment, on sait pas comment les chiens vont aider à retrouver.
C'est magique les chiens.
Ouais, c'est ça, tu te demandes comment ça marche. Sauf que, là, une vingtaine d'habitants du camp ont encerclé les flics afin qu'ils ne pénètrent pas plus dans le camp. Les flics ont sorti la gazeuse et aspergé tout le monde. Les personnes, à partir de là, se sont barrées et sont allées se planquer dans leur cabane. Et des habitants du camp témoignent que les flics sont aussi venus casser les fenêtres de certaines cabanes et asperger l'intérieur de lacrymo. Le commissaire déclare sur cet aspect-là que c'est faux, qu'il n'a pas ordonné la visite et la perquisition des cabanes. Donc, personne n'a dit qu'ils avaient perquisitionné, on a juste dit qu'ils avaient cassé les vitres et aspergé les cabanes de lacrymo. Bref, bon, en tout cas, voilà, ça fait du bien de voir un peu de répondants aux abus de flics sur les campements et les squats à Lyon et ailleurs.
Les ouvriers agricoles sont en grève en Afrique du Sud. Donc, ce sont des ouvriers de la localité de Dourne, dans la région du Cap, qui ont relancé aujourd'hui une grève pour obtenir une augmentation de leur salaire journalier, pour passer de 6 euros à 13 euros, soit de 70 à 150 rands. Donc la grève avait débuté en novembre et était largement suivie par les travailleurs agricoles. Des vignobles, du matériel agricole et des entrepôts avaient été incendiés et de nombreuses routes fermées. Donc, comme différents modes d'action. Et par contre, deux personnes avaient été tuées lors d'affrontements avec la police. Après une trêve qui a duré à peu près un mois, donc le mouvement a repris ce mercredi. La grève a été un peu moins suivie, donc pas mal de travailleurs agricoles ayant repris le travail. Mais la détermination était très présente. Et les ouvriers veulent obtenir cette augmentation. Et il y a notamment un représentant d'un syndicat qui a redéclaré ça en disant que la grève ne s'arrêterait pas tant qu'il n'y aura pas cette augmentation. Donc lors de la manif d'aujourd'hui, la police les a bloqués. En fait, ils sont partis de l'extérieur de la ville, je pense à proximité de champs. Et les flics ont bloqué la route principale menant vers le centre-ville. Et ils l'ont fermée et renforcée par des véhicules anti-émeutes et plusieurs camions de transport de troupes. Donc, bien évidemment, s'en est suivi des échauffourées. Donc, des groupes de grévistes se déplaçaient rapidement entre les fumées de feu allumées sur les bords de route. Et la chaussée était jonchée de balles en caoutchouc qui avaient été tirées par les flics. Et il y avait un hélicoptère qui tournait en permanence sur la zone. Et les policiers dans l'après-midi s'affairaient à dégager des rochers posés sur la route par les grévistes dans la matinée. Donc selon la police, les manifestants étaient entre 3000 et 3500. Et voilà. Et pour petit rappel, en août et septembre des grèves de mineurs. C'était soldé, on s'en avait pas mal parlé dans les médias, parce qu'elle s'était soldée par une soixantaine de morts, dont 34 grévistes abattus par la police à Marikana. Et ça avait été en une fois, là, ça avait été impressionnant comment les flics, alors qu'il y avait une manif, ils s'étaient avancés et tirés à balles réelles sur pas mal de manifestants. Et par rapport au gouvernement, il a refusé d'intervenir, arguant du fait que la loi prévoit que le salaire minimum ne peut être relevé qu'une fois par an et que la dernière augmentation datait de mars 2012. Et du coup, là, il se refuse d'augmenter. Mais disons que tout ça, ça inquiète un peu tout le monde parce que, parce qu'il y a un peu cette trouille-là suite à... aux morts qu'il y avait eu à Marikana, et puis que là, en ce début d'année, c'est l'été austral, et du coup, c'est la haute saison pour les producteurs de fruits, et du coup, qui redoutent des conséquences économiques de ce conflit. Donc, c'est pas pour rien qu'il s'est relancé maintenant. Voilà.
Alors on fait un tour au Kurdistan syrien maintenant. Alors bon, on en parle souvent dans les Canu Info le mardi, mercredi, et plusieurs en parlaient régulièrement. Quand même un petit rappel vite fait du coup, vu que le Kurdistan c'est un non-pays qui s'étend sur plusieurs autres pays, c'est-à-dire la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et la partie syrienne du Kurdistan du coup, elle est un peu à la frontière sud de la Turquie, c'est-à-dire c'est tout le nord de la Syrie comme ça, et elle va jusqu'à la frontière irakienne. C'est pour ça que je vais en parler plus tard en termes de Kurdistan occidental, parce que c'est vraiment l'ouest de ce qui est le Kurdistan. Et du coup, alors que du coup la guerre continue entre l'opposition avec les occidentaux et les Turcs qui soutiennent et le régime de Bachar al-Assad qui lui a réaffirmé il y a pas longtemps, il y a quelques jours, que bah il ferait toujours pas de cadeaux et qu'il allait pas se calmer. Et ben les Kurdes, eux, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises qu'on fait pas mal de batailles pour essayer de pas se faire bouffer du coup, ni par certains groupes rebelles islamistes, ni par l'armée de Al-Assad. Et ben, ils essayent de poursuivre leur bonhomme de chemin comme ça pour mettre en place une autonomie démocratique au Kurdistan syrien, à l'initiative du coup du ce qui est un peu le principal parti kurde, c'est le PYD. Et du coup, malgré les attaques qui continuent, alors les attaques qui sont soutenues par les Turcs largement, qui veulent pas du tout que cette initiative prenne trop d'ampleur au Kurdistan, et aussi il y a un embargo économique qui est tout autour de la région, du coup ils ont l'air quand même d'en chier vraiment. Du coup, les Kurdes ont pris le contrôle de plusieurs villes depuis juillet 2012. Et là, ils ont accéléré le processus d'organisation, en fait, l'organisation de la société civile, notamment. Il y a de nombreuses coopératives qui ont été créées pour toutes les questions de production alimentaire, distribution alimentaire, etc. Il y a des conseils des peuples, des conseils du peuple, pardon, qui ont pris la direction de la gestion de toutes les grosses villes. Et de nombreux comités, après, sur plein de questions qui ont été créés un peu partout. Alors, cette organisation, c'est un peu l'organisation qui est un peu prônée par le PKK aussi. C'est une espèce d'organisation pyramidale, comme ça, un peu, avec des conseils dans chaque quartier, ensuite un conseil de ville, etc. Et qui remonte comme ça, ce genre-là. Du coup, maintenant, les Kurdes contrôlent 10 villes moyennes au nord de la Syrie. Les forces du régime ont dû quitter même deux grands quartiers d'Alep où vivent à peu près 600 000 Kurdes et ils se sont fait virer. Chacun de ces quartiers d'ailleurs compte du coup une maison du peuple et un conseil de quartier qui ensuite aimerait pouvoir être dans un conseil de la mairie, mais bon, tout Alep n'est quand même pas encore kurde. Et en quoi ça a consisté là, tous les trucs dans toutes les villes qu'ils ont fait? Ben déjà, ils ont commencé par créer une police qui est indépendante de celle de la Syrie. Alors bon, on pourrait dire la police c'est quand même pas le plus fun à créer au début, mais vu le contexte, effectivement, forcément tout ce qui est contrôle armé, etc., ça a quand même beaucoup d'importance parce qu'ils sont quand même en guerre et entourés de guerre. Ils ont ouvert 100 écoles, où pour la première fois, du coup, c'est la langue kurde qui est enseignée. C'est la première fois en Syrie. Il y a des femmes aussi qui ont des conseils non mixtes dans chacune des 10 villes et dans chaque quartier, et qui sont aussi représentées à 50% dans les autres conseils du peuple. Ça, c'est le fonctionnement aussi qui est prôné en Turquie, etc. Il y a des groupes aussi uniquement de jeunes qui sont aussi représentés dans les 10 conseils du peuple. Les forces de défense du peuple, YPG, dont on a parlé plusieurs fois parce que c'est eux qui se sont battus contre contre les rebelles et contre l'armée syrienne. Ils ont décidé du coup de se transformer en armée régulière de cette zone et qui sera une force de défense nationale uniquement, qui ne dépend d'aucune autre force, du coup, ni turque, ni syrienne principalement. Et voilà, et du coup, pour parachever un petit peu tout ça, bah là, l'assemblée permanente de ce qui s'appelle le Kurdistan occidental, et qui chapeaute tous les conseils du peuple, là, et s'est lancée dans la rédaction détaillée de toutes les lois d'autonomie démocratique d'un code civil propre qui vont proposer bientôt. Chapeau.
Pinar Selek repasse en procès le 24 janvier. Donc Pinar Selek, dont on a déjà parlé, qui est une sociologue militante féministe et antimilitariste turque et qui soutient les Kurdes, lutte donc depuis 14 ans contre un acharnement politique et juridique. Donc pour rappel, elle est accusée d'avoir posé une bombe dans un marché. Et ce qui est le plus probable, c'est qu'il y a eu un feu qui s'est propagé, mais qui n'est pas du tout d'origine criminelle. Mais il y a un acharnement qui est fait contre elle parce qu'elle dérange, parce que ce qu'elle raconte, ça dérange l'État turc. Donc à l'audience du 13 décembre dernier, les juges de la 12e cour pénale d'Istanbul étaient prêts à la condamner, malgré le fait qu'elle a eu 3 acquittements prononcés par cette même cour en 2006, 2008 et 2011. Donc les avocats ont plaidé l'illégalité de la procédure et demandé le dessaisissement de la cour, ce qui explique le report au 24 janvier. Et du coup, ce sera malheureusement le dernier acte de cette affaire kafkaïenne et qui va certainement se solder mal pour elle, puisqu'il y a eu ce retournement le 13 décembre. Et donc, il y a un appel à une délégation pour aller à Istanbul pour le procès, pour la soutenir, pour être le plus nombreuse possible pour ce procès. Et donc, cette délégation a bien conscience que tout le monde ne peut pas se rendre à Istanbul. Mais il y a un appel à don d'argent pour des personnes qui ont le temps, mais pas forcément l'argent pour aller la soutenir à Istanbul. Et donc, pour ça, il faut faire des chèques à l'ordre de l'association La Lune, Maison des Associations 1A, Place des Orphelins, 67 000, Strasbourg. Et sinon, envoyez des mails à solidarité tout attaché Pinar Selek. Vous voyez, solidarité Pinar Selek tout attaché France@gmail.com.
Peut-être tu peux appeler Pinar Selek parce que je pense.
Ah oui, Pinar Selek, c'est P-I-N-A-R Selek, S-E-L-E-K. Voilà.
On parle pas souvent de cinéma dans ce Canu Info, et bien on va en parler, mais on va pas faire une chronique cinéma non plus, mais
du festival de court-métrage à Vaux-en-Velin.
Non. Non, j'ai dit j'allais pas vraiment tout à fait parler de cinéma. Ah. Mais tu veux parler du festival de court-métrage?
Non, j'étais persuadée, comme tu as dit cinéma, que ça allait être Vaux-en-Velin.
Ah bah non. Ah bah non. En fait, on va aux États-Unis, on va à Hollywood, dans le pur vrai truc du cinéma, comme tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a le nouveau film de Steven Soderbergh qui devait sortir. Je sais pas si vous connaissez. Il fait quand même pas mal de films qui font quand même pas mal d'entrées. Je sais pas, récemment, Solaris, Contagion, tout ça. Et du coup, ce film s'appelle Behind the Candelabra, derrière le candélabre, j'imagine. Et il va pas sortir dans les salles de cinéma américaines. Pourquoi ? Parce que aucun studio n'est prêt à investir les 5 millions de dollars qui manquent au film pour sortir en salle. Bon, 5 millions dans une production américaine, c'est quand même pas gigantesque par rapport à leur budget. Et du coup, Soderbergh, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, nous sommes allés voir tout le monde à Los Angeles, je pense qu'il a un gros carnet d'adresses, ils ont dit qu'ils trouvaient le film trop gay. Tous. Et pourtant, après le succès de Brokeback Mountain, qui n'était pourtant pas aussi drôle que ce film-là. J'étais stupéfait, ça n'a aucun sens. Voilà, il s'insurge comme ça. Alors, du coup, à défaut de grand écran, le film va se contenter de sortir à la télé avec une diffusion sur HBO seulement. Et on ne sait pas encore s'il va sortir en France. Et pourtant, quand même, c'est un film, bon, bah, il y a de la star pour que ça marche, quoi. Enfin, le film, du coup, il raconte la relation d'un pianiste de music hall, qui est interprété par Michael Douglas, avec son amant, qui est quand même Matt Damon, qui est un peu la méga star. Et ce pianiste, en plus, il est très, très connu aux États-Unis. Du coup, c'était dans les années 50-60, mais il est encore très, très connu aujourd'hui. Du coup, il a été homosexuel et lui, il l'a caché toute sa vie. Le film parle de ça. Et pour rappel, en 2010 déjà, il y a un film qui était sorti avec Jim Carrey, encore de la star, qui s'appelait I Love You Philip Morris, qui racontait également une histoire d'amour entre deux mecs, et qui avait réussi à sortir de justesse uniquement dans moins de 100 salles contre 400 prévues pour les grosses productions hollywoodiennes. Bravo, bravo.
Chut, écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Faut-il mourir pour avoir des papiers? C'est pas une vraie question, mais c'est le nom du collectif de Sans Papes de Lille qui rassemble plein d'autres collectifs et d'assauts et qui s'est monté contre la circulaire Valls du 28 novembre là, qui durcit encore les critères de réalisation, de régularisation dont on a parlé plus en détail quand elle était passée. Et du coup, c'est ce collectif qui a lancé une grève de la faim. Et là, nous sommes au 69e jour de cette grève de la faim de Saint-Papier à Lille. C'est-à-dire que c'est quand même un peu le stade critique pour la santé des personnes. Pourtant, bah, le gouvernement, lui, il continue de jouer l'épreuve de force comme s'il négociait avec Mittal, je sais pas quoi, ou un truc pareil. Et du coup, il joue le pourrissement de la grève et il continue cette attitude-là en refusant toute ouverture de négociation. Du coup, dans un texte qui a été envoyé lundi un peu partout sur Internet, il y a de nombreuses assos et de nombreux collectifs qui demandent clairement et rapidement au gouvernement d'agir maintenant pour la régularisation. Ah, oh, j'y arrive pas avec ce mot aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas passer nulle part. Pour la régularisation.
T'es en train de devenir socialiste.
C'est ce que j'étais en train de me dire, je me valsise. Du coup, je recommence d'agir maintenant pour la régularisation immédiate et sans condition des sans-papiers de Lille. Hier, le collectif a d'ailleurs manifesté à Paris, devant l'AFP, pour protester contre l'absence totale de couverture médiatique, parce que c'est vrai que vraiment personne n'en a parlé, qui a été donné à ce mouvement. Alors, il faut dire qu'un mouvement qui commence, si je compte bien, ça doit faire fin octobre, qui fait novembre, bon, novembre, mais au moment où c'est le début de la grève, du coup, il n'y a pas de danger de mort, du coup, les journalistes, ils n'en parlent pas, et paf, ça devient un peu le moment plus chaud, juste au moment des fêtes, ensuite des soldes, c'est vrai qu'ils... un peu mal tombé comme ça. En tout cas, il s'est passé pas mal de trucs un peu dans le nord de la France. Vous pouvez trouver pas mal d'infos sur Internet, sur les petits sites. Et il y a aussi un rassemblement, arrêtez de rire, pardon, qui est organisé tous les jours depuis lundi à Paname jusqu'à la régularisation. Et ce rassemblement est devant le siège du PS à 18h tous les jours, 10 rue de Solferino. Voilà.
Il faut que ça se sache.
Et ben là, bon bah c'est l'histoire d'un couple qui embarque dans un avion direction le Bénin. Alors pour eux, pas de problème, bon parce qu'ils sont principalement retraités de l'éducation nationale d'origine française. Alors voilà, on sait que passer la frontière dans ces conditions, c'est un jeu d'enfant. Par contre, l'inverse, c'est pas la même chose. Et pendant que les autres passagers prennent place à bord de l'avion, là, quatre flics arrivent en agrippant une femme d'une trentaine d'années, les pieds et mains liés, qui essaye de se débattre comme elle peut pour empêcher son expulsion. Alors là, le couple en question et avec de nombreux autres passagers décide de protester. Un des flics, en parlant à son collègue, dit « on va en débarquer trois de ces passagers, ça va servir d'exemple pour les autres ». Et ben ni une ni deux, un des flics commence à vouloir embarquer le couple qui se débat et finissent par les plaquer au sol et les menotter main dans le dos. Ils seront ensuite traînés sur la passerelle, puis mis dans un fourgon pour être emmenés au commissariat de l'aéroport. Au final, ils ont donc bien été trois à se faire embarquer pour le motif d'obstruction à une décision de justice. Le procureur, après, donc du coup, ils ont passé 3 heures en garde à vue. Le procureur a décidé de ne pas donner suite à ces accusations et les trois personnes, de toute façon, avaient refusé de signer, avaient refusé de reconnaître cette obstruction à la justice qui leur était, comment on dit,
qui leur était reprochée,
voilà ça. Mais voilà, et ben le succès de cette histoire, c'est qu'en tout cas la personne qui devait se faire expulser a également été débarquée et n'a pas pu être expulsée. En tout cas, de cet avion, on n'a pas d'infos pour le reste, mais en tout cas, voilà, c'est une double victoire parce que c'est déjà une victoire quand il y a des gens qui protestent et quand en plus ça marche, c'est génial.
Il faut que ça se sache.
Alors moi génial parce qu'on peut pas quand même que donner des bonnes nouvelles. Fin décembre, il y a une jeune femme qui faisait la manche dans la rue à Lyon avec son bébé d'un an. Alors en fait, ça devrait avoir aucune importance, mais faut préciser que cette femme, elle est rome. Parce qu'évidemment, le fait qu'elle soit rome, ça va être indispensable pour capter la suite de l'histoire. Donc, elle est arrêtée par les flics, parce qu'elle fait la manche et qu'elle est rome. Bon, il l'emmène au poste, il vérifie son identité. On pourrait imaginer que l'histoire va s'arrêter là, mais en fait, pas du tout. La femme et son enfant, ils vont être retenus plusieurs heures au poste. Et pourquoi? Parce que s'ils ont déjà vérifié son identité, bah pourquoi ils la gardent? Puisqu'a priori, c'est pas encore interdit de mendier. Et ben pourquoi ils la gardent? Parce qu'il y a un officier de police judiciaire qui a trouvé une bonne idée pour garder la dame. Il va l'accuser d'avoir organisé la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit. Avec comme circonstance aggravante que ces faits-là auraient été commis à l'égard de son enfant de 12 mois. D'un an. Parce que c'est bien connu qu'à un an, on arrive à tendre la main, on arrive à demander des sous et on arrive même à harceler un peu les passants, voire à les poursuivre. Donc, il y a un rappel.
Les enfants mûrissent très, très, très vite de nos jours.
C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est la télévision et puis toute cette violence, je pense. Donc, en fait, le rappel à la loi qui est donné à cette femme, il explique que les faits qui lui sont reprochés sont passibles, attention, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Je vous épargne l'article du code pénal, mais je vous jure que j'ai la référence. Et elle est aussi 225-12-6.
Elle le fait.
Ben oui. Elle est également aussi cette dame sous la menace d'une interdiction de séjour en France d'au moins 10 ans. Donc finalement, l'officier de police il va quand même laisser repartir la dame et son enfant quand même plus de 4 heures après leur arrestation, avec le petit papier cadeau aussi, hein, et en précisant bien qu'elle sera poursuivie devant le tribunal si elle commet une autre infraction dans les 3 ans à venir. Donc voilà, cette histoire elle est assez édifiante, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Après nous on peut vous donner des pistes. Ça peut être le zèle de la flicaille pour pourchasser les pauvres de préférence quand ils sont pas blancs. Une autre piste, ça peut être l'inventivité de la flicaille pour criminaliser les Roms et les virer de nos quartiers. Ou bien la condescendance dont les institutions font preuve dans le regard qu'elles portent sur la manière dont les pauvres et les non-blancs élèvent leurs enfants. Ou enfin la surenchère que les socialistes mettent en œuvre pour bien faire comprendre aux Roms qu'ils ne veulent pas d'eux en France.
Ou aussi qu'en ce moment à Lyon, ils sont en train de régulariser certaines situations de personnes roms, mais que pour ça, il faut avoir aucun...
Pas de casier. Après un rappel à la loi, je sais pas si ça rentre.
Un casier pour tout le monde. Quelle bonne solution.
Ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
À
Alors, bonsoir. Ce soir, dans les chroniques numériques, on va commencer avec des histoires de droits d'auteur. Et en en parlant des deux côtés cette fois, parce que, bon, ok, on va essayer d'être objectif. Alors, aux États-Unis, il y a un type qui s'appelle Jeremiah Perkins, qui est considéré comme le leader du groupe de piratage de films Imagine, qui a été condamné à 5 ans de prison. 5 ans de prison parce que Imagine, en fait, c'est un groupe de personnes qui filmaient en salle les films et qui les diffusaient ensuite sur Internet, ce qui est un crime assez important. Et du coup, ce type, il a pris 5 ans déjà. Bon, c'est assez énorme. Et ensuite, la peine qu'ils mettent à tous les gens qui se font arrêter pour des trucs qui peuvent avoir à voir avec du piratage ou ce genre de choses, qui est assez ridicule, qui est 3 ans de liberté surveillée avec interdiction de posséder tout appareil électronique capable de produire et de distribuer des copies d'œuvres protégées. Donc,
on peut pas avoir de portable, quoi.
Il peut pas avoir d'appareil électronique, en fait. Sachant que c'est après ces 5 ans de prison, donc dans 5 ans, je pense qu'il y aura encore moins qu'aujourd'hui moyen de trouver des appareils qui ne peuvent pas faire ça. Donc, en fait, il n'a plus le droit de posséder d'appareil électronique, c'est génial. Voilà, donc ce type, il a pris 5 ans de prison, pourquoi ? Pour avoir diffusé des films qui n'étaient pas à lui. À côté de ça, on a Sony, grosse major, qui sort un disque, qui a sorti un disque il y a quelques semaines, un disque de Bob Dylan, de 86 chansons inédites, qui sont sorties entre 1962 et 1963. Et ce disque, il est sous-titré « Copyright Extension Collection Volume 1 ». Copyright extension, ça veut dire en fait que depuis 2011, il y a une loi européenne qui est sortie qui dit que normalement, donc, les droits d'auteur sur une œuvre, ils sont de 50 ans. Il y a la majeure, elle possède l'œuvre pendant 50 ans et ensuite elle perd les droits. Depuis 2011, ces droits, ils sont augmentés à 70 ans, mais pour ça, il faut avoir utilisé dans les 50 premières années l'œuvre. Si elle n'a pas été utilisée, s'il n'y a aucun disque qui est sorti ou rien, les droits sont perdus au bout de 50 ans de toute façon. Ces disques, en fait, ces 86 chansons, n'étaient jamais sorties. C'est des chansons inédites qui, bon, voilà, n'intéressaient pas grand monde a priori jusque-là. Sony n'avait jamais trouvé bon de les sortir. Et ils allaient perdre les droits, donc, vu que c'est des chansons de 62 et 63, en 2013. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On n'a qu'à sortir un disque, accrochez-vous bien, à 100 exemplaires pour toute l'Europe. Donc, autant dire qu'il est introuvable, que ceux qui peuvent le trouver, c'est à 1000 euros sur eBay. Et qu'il est moche, que ces 4 pauvres CD pourris avec juste écrit Bob Dylan en noir dessus et 4 feuilles A4 accrochées, avec les titres des chansons, enfin, c'est même pas un truc collector ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement pour pouvoir justifier d'augmenter de 20 ans le temps des droits de Sony sur cette œuvre. Donc voilà, on nous parle beaucoup des problèmes de piratage, du fait qu'aujourd'hui Virgin Megastore va fermer et que quand même c'est un peu de la faute des pirates. De toutes ces choses en fait qui sont causées par les pirates, et on a un peu envie de dire quand même que toutes ces choses qui sont soi-disant en train de tuer la culture, et ben c'est peut-être les majors qui devraient s'inquiéter elles-mêmes de ce qu'elles sont en train de faire. Alors, depuis quelques jours, on parle beaucoup du filtrage des pubs par Free. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est que ce filtrage de pub, c'est Free qui a mis en place sur sa nouvelle Freebox, la Freebox Révolution, un filtrage qui permet de ne plus avoir de publicité sur les sites web que vous visitez. Il l'a mis en place il y a quelques jours sans bien sûr prévenir personne. En fait, on l'a su parce que des sites ont prévenu eux-mêmes, des sites qui se préoccupent de ça, comme Numérama, ont parlé de cette histoire. Ce filtrage, il était activé par défaut pour toutes les personnes qui avaient rebooté, comme c'est fait régulièrement sur les Freebox pour mettre à jour. Toutes ces personnes, elles avaient ce filtrage sans trop savoir pourquoi, sans même savoir qu'il était là si elles ne s'attendaient pas à avoir des pubs. Et en plus des publicités, bien sûr, Free a aussi filtré au départ, pendant les premiers jours, Google Analytics, qui est un service de mesure d'audience qui permet de connaître le nombre de visiteurs sur un site, de faire des statistiques sur les sites. Donc les visiteurs qui sont abonnés à Free n'étaient plus comptabilisés sur aucun site. Et on a pu voir aussi que certains sites comme Dailymotion pouvaient toujours avoir de la pub, et YouTube, qui est quand même assez équivalent à Dailymotion, on ne comprend pas trop la différence, n'avait plus de publicité. Donc on se rendait vite compte que YouTube, ça appartient à Google, que Free, ils font semblant de ne pas être au courant, mais depuis quelques mois, ils ont un problème avec Google, et qu'en gros, ils sont servis de leurs abonnés pour pouvoir, couper une partie des revenus de Google. Bon, en faisant ça, ils ont aussi coupé l'intégralité des revenus de beaucoup de petits sites web qui ne fonctionnent que par la pub. Donc, on est d'accord ou non avec ce principe. Le fait est que, normalement, quand on fait ça, par exemple, il y a plusieurs petits logiciels qui permettent de bloquer les pubs sur Internet. On n'a rien contre. Le fait est que ces logiciels-là, ils peuvent être désactivés site par site. Ils peuvent être activés ou non en fonction de ce que vous allez faire. Vous pouvez décider que le site de YouTube, par exemple, qui est un site qu'on peut se permettre de se dire qu'il gagne beaucoup d'argent, et ben vous n'avez pas envie d'en voir les pubs. Le site un petit site d'information ou de je ne sais quoi que vous aimez bien, que vous avez envie de soutenir, mais pas forcément envie de donner d'argent, et ben vous pouvez désactiver et du coup voir les pubs, même cliquer dessus. Voilà, c'est vous qui décidez de qu'est-ce qui est filtré, c'est vous qui expliquez à votre logiciel les publicités que vous voulez voir et celles que vous refusez de voir. Avec Free, ces possibilités-là, elles étaient c'était invisible. En fait, on ne pouvait pas décider de quel site aurait des pubs et quel site n'en aurait pas. Donc, bien sûr, pour les personnes vraiment motivées, il y avait une possibilité de désactiver ce filtrage. Encore fallait-il déjà savoir qu'il y avait un filtrage, ensuite savoir qu'il était désactivable et savoir le faire. Donc bien sûr, beaucoup de gens ne verront pas d'inconvénient à ça, les gens qui auront fouillé les propriétés de leur Freebox chaque jour depuis qu'ils l'ont, mais d'autres comme la plupart des abonnés, en fait, ne sauront absolument pas comment désactiver. Donc bien sûr, il y a énormément de choses bien à désactiver les publicités, on le conçoit. Il y a quand même un énorme problème à la façon de filtrer que Free a utilisé. Et ceux qui l'ont expliqué le mieux, c'est Numérama, avec un petit dialogue de fiction qu'on va vous lire.
Alors là, nous allons faire un retour vers le futur. Nous sommes en 2015, la scène se déroule place Beauvau. Xavier Niel, le fondateur et principal actionnaire de Free, est convoqué dans le bureau de Jean-Jacques Urvois, ministre de l'Intérieur du gouvernement Valls.
Xavier, on va se parler franchement. Les élections approchent et il n'est pas question de se taper une nouvelle affaire Mera. François n'y survivrait pas. Il faut qu'on sache qui visite les sites terroristes en France pour les surveiller étroitement et qu'on sache qui consulte les pages des organisations occultes qui soutiennent ces chieurs de Notre-Dame-des-Landes.
C'est pas possible, nous n'avons pas dans nos bases les adresses des sites internet qu'ont visité nos abonnés. Ce serait une atteinte grave à leur vie privée.
Bien sûr, évidemment, c'est tout à votre honneur. C'est pour ça qu'on a pensé à une idée beaucoup plus simple. Vous vous souvenez quand vous avez bloqué les publicités pour emmerder Google ? C'était activé pour tout le monde, sauf pour les internautes qui réglaient leur boîtier pour désactiver le filtrage, non ?
Oui.
Eh bien voilà, c'est très simple. Puisque vous avez pu le faire pour la pub, vous pourrez le faire aussi pour les sites terroristes. On vous filera la liste établie par nos services.
Ok, mais ça va pas vous dire qui les visite, ça ?
Oh, Xavier, laissez-moi finir. Votre option là, vous savez qui la désactive, non ?
Oui.
Eh bien voilà, qui va désactiver le filtrage des sites terroristes ? C'est ça qu'on vous demande, rien de plus. La DCRI se charge du reste. Et vous pourrez compter sur la reconnaissance du gouvernement. Voilà, donc bien sûr, c'est fictionnel. Bien sûr, ils abusent. Bien sûr, on peut dire tout ce qu'on en veut. Le fait est que Free a mis en place un principe de filtrage qui, s'il avait été mis dans pas mal d'autres pays, tout le monde aurait hurlé à la censure.
Alors, une petite info, c'est assez rapide, mais on a beaucoup entendu parler de problèmes autour des pilules 3e et 4e génération, des pilules contraceptives 3e et 4e génération. Il y a des femmes qui ont porté plainte pour des effets indésirables. Là, c'est la question, c'est pas tant là de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais plutôt de vous donner une petite piste d'info pour les personnes qui seraient concernées et qui prennent la pilule et qui auraient besoin d'infos pour savoir si la pilule qu'elles prennent fait partie ou pas des pilules incriminées. Donc en fait, il faut aller voir sur le site du planning familial où il y a une liste très précise des pilules avec les molécules qui sont utilisées dans ces pilules selon qu'elles sont de première ou de deuxième génération. Et sachant que sûrement les pilules où il y a des problèmes et les pilules qui sont retirées du remboursement, c'est les pilules 3e et 4e. Donc en tout cas, voilà, vous allez sur le site planning familial, vous cherchez sur internet, on le trouve super facilement ce site, et vous trouvez une info très précise. Et en fait, le planning recommande vraiment que si vous avez un doute par rapport à votre pilule, eh ben, vous terminez la plaquette, vous allez voir un professionnel de santé, mais c'est toujours mieux, même pour un truc comme ça, de terminer la plaquette en cours plutôt que d'arrêter paf d'un seul coup. Et oui, pensez au préservatif si vous arrêtez, en tout cas, votre pilule, même abruptement. Non, mais c'est plutôt par rapport au cycle et au risque de thrombose veineuse. Mais du coup, pensez au préso. Et voilà, donc toutes les infos sur le planning.
Alors, un petit agenda pas du tout exhaustif. Ce soir, juste là, maintenant, à 20h, vous pouvez sortir à La Griffe. Il y a une projection débat sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, donc pour soutenir les personnes qui y sont et cette lutte. Donc, c'est le tout nouveau collectif local de soutien aux opposants à l'aéroport qui organise cette projection débat à propos de cette lutte. Du coup, il y aura une discussion suite à ça. Et donc ce collectif s'organise depuis quelques semaines et en lien avec celui de Villefranche, mais aussi en lien avec les luttes sur le Notave et contre la construction du stade OL de l'OL Land. Il y a un nouveau blog qui est Rhône. NDDL comme Notre-Dame-des-Landes.wordpress.com pour savoir ce qu'ils font. Et je voulais dire que en tout cas, le 18 et le 19 janvier auront lieu deux jours d'action contre Vinci. Donc,
national.
Voilà. Donc, l'idée là, comme Vinci est le constructeur de cet aéroport, il y a une envie là de dire que bah il suffit pas d'aller juste à Notre-Dame-des-Landes pour lutter contre Vinci, mais que ça peut se faire un peu partout puisque Vinci construit énormément de choses, c'est une grosse multinationale. Et du coup, il y a un appel à ces deux jours d'action. Donc, on choisit les modes d'action qu'on veut, on les fait où on veut. Bref, c'est large, mais c'est une idée d'attaquer concrètement ce géant de la construction. Sinon, les apéros féministes reprennent en 2013. Ils étaient les 12, puisqu'on était en 2012. Et maintenant, ça va être les 13 de 2013. Et voilà, et donc ça sera ce dimanche à partir de 19h au local féministe rue de la Victoire, métro Guillotière. Et donc c'est des apéros conviviaux en mixité choisie, meuf, gwyn, trans. Et pour parler un peu d'homophobie, là, Hollande a...
Non, je t'aiderai pas, je vois pas ce que tu veux dire.
Donc Hollande a rencontré des gens, des cathos, des personnes de droite, voire d'extrême droite. Donc il a maintenu que le projet de loi sur le mariage pour tous et toutes se maintiendra. Par contre, il a effectivement dit que ben, la PMA, procréation médicalement assistée, ça sera pas pour tout de suite, ce dont on s'attendait, à vrai dire. Et du coup, il y a une manifestation qui aura lieu, donc c'est dans un peu plus longtemps, le 26 janvier à 14h30 à Place Bellecour, pour redire encore une fois, suite à celle du 15 décembre, une manif pour l'égalité, et donc contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Et du coup, le collectif lesbien à l'intérieur pour protester contre le fait que le gouvernement fait pas passer en même temps que le mariage, tant qu'à faire, la PMA. Ça aurait pu faire un bloc, mais ils en ont décidé autrement. Et puis, je pense, cette manif aussi pour contrecarrer celle qui aura lieu donc aussi ce dimanche 13 à Paris des personnes de droite contre ce projet de loi.
Ouais, je crois qu'on pourrait quand même rappeler que en ce moment ça a vraiment de l'importance, je trouve, de se rendre à ces manifs, parce que en face, tous les réas qui font des déploiements de force qui sont vraiment flippants. Alors bien sûr, à Lyon, on a un peu plus l'habitude qu'ailleurs en France que tous les fascistes y soient pleins et qu'ils soient forts, etc. machin. Mais c'est quand même dans toute la France, et c'est vraiment le moment de dire un truc pour être un peu actif et actif sur ce qui est en train de se passer.
Mais quand vous allez à ces manifs, en fait, il y a souvent le PS devant avec des slogans, on va dire, très égalitaristes, genre homo, hétéro, même droit, même combat, etc. Mais la plupart du temps aussi, dans ces manifs, il y a des pink blocs, du coup des blocs, on va dire, un peu, qui sont aussi en même temps critiques de la politique du PS. Et donc c'est possible aussi, si ça vous parle pas, que ça soit aussi le PS qui tienne ces manifestations. Il y a eu dans plein de villes, à Paris comme à Lyon, mais bien dans d'autres endroits, des petits collectifs ou des ping blocs qui ont donné des autres sons de cloche pour voilà, pour manifester en même temps pris là-dedans, mais critique aussi face au gouvernement. Et puis il y avait une dernière petite info, mais je pense que l'émission d'après va la dire, c'est qu'il y aura une bouffe ce samedi 12 à la Plume Noire face à la recrudescence des agressions fascistes. Donc c'est la coordination des groupes anarchistes et l'association Tiens bon la pente qui organise cette bouffe et suivie de projections, suivie de sound system.
Et ben voilà, pour conclure ce Canu Info, une météo. Et ben, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, les températures ont chuté. Vous avez dû rallumer vos chauffages en sachant très bien que ça, vous allez le payer durement à la fin du mois. Et ben, si ça peut vous rassurer, ça va pas remonter dans la semaine. Alors demain, le soleil va se couvrir, la pluie fera son apparition et les températures partiront à 3 degrés le matin pour finir à 6 degrés l'après-midi. C'est maigre. Vendredi, ben...
C'est dégueu vendredi.
Vendredi, c'est dégueu. Puis sur tout le département, on gagne 1 degré le matin, autant dire pas grand-chose. Et on reste sur 6 degrés l'après-midi avec un ciel couvert et de la pluie. Samedi, et ben les nuages seront un peu moins noirs quand même, comme on peut le voir sur la carte du progrès.
Ça se déguise vaguement.
Mais il y aura toujours un peu de pluie et on perd 2 degrés le matin, on sera à 2 degrés. Et à 6 degrés l'après-midi et le soleil, bon, il fera quelques apparitions par-ci par-là. Et l'autre chose, c'est que la semaine prochaine, des chutes de neige sont à prévoir.
Sortez les chaînes. Ah ouais.
Ou les chaînes pour les voitures. Ça n'existe pas pour les vélos, pas de ma faute.
Et sortez pas votre vélo. Sinon c'est marrant, il faut regarder, quand il neige, il faut regarder chaque vélo qui passe. Parce que deux minutes après, les gens se cassent la gueule, c'est très drôle à regarder.
Saleté.
Voilà.
On a fini.